Émission spéciale aujourd'hui avec un unique invité, mais quel invité, Claude Lanzmann, cinéaste, mais aussi, c'est maintenant certain, écrivain. Celui qui passa 12 années à travailler à son grand œuvre, le film Shoah, auquel on ne saurait, auquel il ne faut surtout pas le réduire, a passé 2 années, il nous le dira, la rédaction de ses mémoires publiées chez Gallimard, sous le titre Le Lièvre de Patagonie. Ce livre qui sort aujourd'hui en librairie nous a donné l'envie de cette journée spéciale sur France Culture, une journée commencée dans les matins, présentée par Ali Badou, dont vous étiez l'invité, qui se poursuivra aussi dans le 18-20, où l'on parlera de vous, en votre absence. Cette fois, cette journée est en tout cas l'occasion pour nous d'accueillir une nouvelle fois un homme passionné et passionnant. Et lorsque nous avons eu l'idée de cette émission spéciale en votre compagnie, Claude Lanzmann, nous n'avons pas eu envie d'inviter d'autres invités, mais nous avons plutôt pensé à inviter des disparus par le biais des archives de l'INA. Ainsi, au cours de cette émission, et d'ici 13h30, quelques voix, quelques courtes séquences que nous vous proposerons d'écouter, qui nous permettront d'aborder telle ou telle période de votre vie ou tel sujet qui vous préoccupe. Il y en a tant, et il y en aurait tant à aborder, Claude Lanzmann. Ici, nous n'en aborderons que quelques-unes à peine. Mais pour ouvrir cette émission, nous allons faire comme s'ouvre votre livre. Et pour cela, nous allons vous proposer d'écouter une première archive. Cette première archive est l'exception qui confirme la règle, puisque l'homme que nous allons y entendre s'exprimer est toujours vivant, bien vivant. Nous sommes à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Et c'est Robert Badinter, garde des Sceaux, qui s'exprime.
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment d'assumer, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.
Et là, j'enchaîne avec la première phrase de votre livre, Claude Lanzmann, la guillotine, plus généralement la peine capitale et les différents modes d'administration de la mort, aura été la grande affaire de ma vie. Alors, quand on ouvre ses mémoires et qu'on s'appelle Claude Lanzmann, qu'on ouvre ses mémoires par cette phrase, on ne le fait évidemment pas par hasard, c'est bien sûr pour que l'on vous en parle. Alors, cette archive de Robert Badinter, elle est d'abord très belle, tout simplement, mais au-delà de l'abolition de la peine de mort en France, ce premier chapitre, vous y passez en revue, une revue terrifiante, les différentes formes d'exécution capitale, du garrottage de la Spagne franquiste jusqu'aux égorgements, ces vidéos d'intégristes islamistes qui égorgent leurs otages. Voilà, cette première phrase, Claude Lanzmann, parlons-en. Il faut parler de cela.
Bon, c'est vrai que je suis un partisan farouche, résolu de l'abolition de la peine de mort, pas seulement de la guillotine, mais de la peine de mort dans le monde, et que j'ai l'impression que c'est viscéral chez moi, parce que ça a commencé très tôt. Je hais d'abord les partisans de la peine de mort, c'est une autre race d'hommes pour moi. Et je raconte dans mon livre, dès la première page, ça a commencé dans mon enfance, j'avais 5 ans, 6 ans peut-être. Mes parents étaient absents et une bonne bretonne m'avait emmené voir un film qui s'appelait « L'affaire du courrier de Lyon ». Avec, je me souviens du nom des acteurs, Pierre Blanchard, Dita Parlot. Et Pierre Blanchard s'appelait dans le film, je crois, Le Surc. Et l'appâtage du courrier de Lyon avait été attaqué, etc. Tout ce qui était dedans pris, les gens tués. Et un innocent était condamné à mort. Et on le voyait se faire exécuter. On voyait le couperet s'abattre. Et ça m'avait inspiré une grande horreur. Et je ne me suis même pas préoccupé en écrivant cela du nom du metteur en scène.
On vous l'a dit depuis quand même. Hein, Claude Autant-Lara, c'est quand même pas rien.
Ça n'est pas rien, mais je dis, il devait être.
Très bon cinéaste, à l'évidence, pour vous avoir impressionné autant, vous le dites. Hein.
Oui. Et alors, après avoir vu ça, c'était effrayant, parce que j'ai passé des mois et des mois à rêver que on me coupait la tête. Et à la fois, on me coupait la tête et on me guillotinait verticalement, si je puis dire. On me découpait en tranches plates d'une épaule à l'autre en passant par le sommet du crâne. Bon, et mon père devait venir me calmer. Je ne pouvais vers minuit, je ne pouvais me rendormir qu'après qu'il m'ait longuement caressé, parlé, etc. Alors on peut sûrement donner des interprétations psychanalytiques de ça, mais enfin ça ne m'intéresse pas.
On s'en gardera bien, Claude Lanzmann. Ça ne
m'intéresse pas du tout. Quand je réussis à faire un livre sur moi, il n'y a pas de psychanalyse dedans.
Non, mais parce que vous y êtes, vous, mais en même temps... On en reparlera toujours dedans et dehors, c'est-à-dire que c'est un livre de mémoire, mais qui n'a rien de nombriliste. C'est un livre qui nous raconte une vie, certes, mais surtout des rencontres, des amours, une obsession ou une réflexion plus exactement incessante sur la mort et sur les morts qui aboutira, comme ce livre aboutira aussi au film Shoah. Mais c'est vrai que ça passe par des réflexions sur vous-même. Je sais qu'Antoine Guillot l'a noté aussi. J'en perds mes mots. Nous, on vous a devant nous, Claude Lanzmann, mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, une caractéristique physique qui apporte par rapport à la guillotine.
Et alors ça, c'est assez incroyable, parce que vous racontez, et ce livre travaillera aussi la question de l'incarnation, ça on y reviendra, mais vous racontez presque comment un traumatisme enfantin comme ça peut agir sur le développement du corps et que finalement, peut-être à cause de cette hantise de la guillotine que vous aviez, vous deviendrez l'homme sans cou que vous décrivez, c'est-à-dire cet homme crotch, selon le principe de la boxe, où vous avez la tête rentrée dans les épaules, ce qui ne laisserait pas passer la lame de la guillotine. En tout cas, vous l'espérez.
J'ai un peu de cou quand même, faut pas exagérer.
C'est vous qui le dites. Hein.
C'est moi qui le dis. Oui, je dis, je n'ai pas de cou. Bon. J'ai grandi en crouch, mais le crouch, c'est un langage de boxeur.
Ouais.
Moi, j'ai vu des matchs de boxe quand j'étais plus jeune. Et quand il y avait des grands boxeurs qui entraient en crouch, précisément, dans la garde de l'autre.
Mais ce qui est une posture qui permet d'éviter les coups aussi.
Ah oui, les poings glissent. Et je dis que j'étais... que Mon cou, l'arrière de mon cou est devenu dur comme un morillo de taureau de combat et je me plaisais à imaginer le couperet s'abattant sur l'arrière de mon cou, mais mon cou était si fort qu'il repoussait le couperet et le couperet retombait, remontait. C'est ce que j'appelle perdant peu à peu son efficace originaire.
Le fait est, Claude Lanzmann, qu'on ne s'intéresse pas à ce point à la mort si on n'aime pas passionnément la vie, et ça vous le dites évidemment à plusieurs reprises, et la vie ce sont aussi, et beaucoup, les femmes d'abord, les amis, enfin les femmes d'abord, les amis, la femme et les amis, on ne va pas dire d'abord l'un ou d'abord l'autre. Une autre voix à vous faire entendre, Claude Lanzmann, et ce n'est pas tant les propos qui vont importer ici, mais celui qui parle, c'est Monique Bolli, poète, amie des surréalistes.
Ah, vous avez retrouvé ça.
Celui qui sera le compagnon de votre mère, Pauline, dite Paulette, et qui sera bien plus qu'un beau-père pour vous. On l'entend ici raconter une simple anecdote.
Un jour, je me souviens de cela comme si c'était aujourd'hui, Hendrik Kramer et moi, raccompagnons d'Omal, qui devait en principe arriver gare du Nord à l'heure, il avait juste le temps, nous l'accompagnons vers le métro Vavin après avoir quitté Roger Gilbert Lecomte. Il y avait donc Domal, Hendrik Kramer et moi qui allions vers le métro. Et en approchant du métro, devant nous, il y avait du monde. Et parmi ces personnes qui marchaient devant nous, il y avait un homme grand, osseux, sec, qui marchait d'un pas saccadé. Et Domal nous dit, voilà, cet homme-là, il est comme moi, il a l'intention de descendre l'escalier du métro. Mais je vois autour de lui, derrière lui, des nuages noirs, lourds, épais, suifeux. Ah, je dis, René, je ne vois rien pourtant, je ne vois rien. Mais si, tu vois pas comme c'est dense autour de lui. Tu ne vois pas comme, tu ne vois pas comme il est entouré d'ondes magnétiques sombres, néfastes. Et à ce moment-là, eh bien, subitement, l'homme s'arrête, raide, se met à genoux et s'effondre juste devant l'escalier du métro.
Voilà, pour vous faire entendre la voix de...
J'ai du mal à reconnaître sa voix. Pour moi, elle était beaucoup plus douce et mélodieuse.
Oui, mais en même temps, il y a quand même cette force de l'archive. Mais alors, Boniboli, il est très présent dans votre livre parce que c'est un vrai compagnon, c'est un initiateur. C'est quoi pour vous? C'est qui pour vous?
D'abord, c'est la surprise formidable en 1942 en Auvergne. On gratte à la porte d'en bas de la maison, comme dans le corbeau d'Edgar Poe, gently, napping gently, etc. Et puis, mon père nous avait entraînés à nous enfuir. Si jamais la Gestapo arrivait, il avait huilé toutes les portes de la maison avec un soin maniaque. Enfin, c'était une maison irréellement silencieuse. Et puis elle était tellement silencieuse que j'ai entendu qu'on tapotait à la porte du bas, à la porte du jardin. Et puis je me suis levé, parce qu'on attendait les carillons de la Gestapo, ils nous entraînaient à ça. Et puis c'était pas ça du tout. Enfin, j'ai ouvert et je vois un homme grand avec un très beau visage, intelligent, un grand front, etc. Et qui met son doigt devant sa bouche et qui me dit « Chut, je suis Monsieur Sylvestre ». Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas qui il était. Il me répète ça « Chut, je suis Monsieur Sylvestre ». Et c'était Moni de Bouly. Poète surréaliste serbe, juif, que les surréalistes français avaient fait venir à Paris, Breton, Aragon, Éloire, etc., et qui est considéré en Serbie comme le Rimbaud serbe, et qui était tombé amoureux de ma mère par un coup de foudre formidable sur une banquette de la Coupole en 1938. Et ma mère, c'est compliqué parce que ma mère, nous ne vivions plus avec elle et en 1942, on ne l'avait pas revue depuis...
Depuis 8 ans, 34, non? Elle était partie ou...
Elle était partie en 34, mais on ne l'avait pas revue depuis 1938. Mais ça, je veux bien vous parler de ma mère en passant.
Ouais, bah oui.
Et ma mère, ils avaient été arrêtés tous les deux sur un quai de la gare d'Orléans. Ma mère avait un visage très sémite. Arrêtés tous les deux sur le quai de la gare d'Orléans en allant voir leur ami Max Jacob à Saint-Benoît-sur-Loire. Ils avaient tenu tête à un interrogatoire de la Gestapo pendant une journée entière. Ma mère leur montrait la photographie de Göring qui se trouvait au-dessus du bureau des interrogateurs en leur disant « Mais regardez-le, il a l'air plus juif que moi », ce qui est vraiment difficile à dire. Quand on a connu ma mère. Et bref, ils ont été sauvés le soir par le commissaire de police d'Orléans qui a réussi à arracher leur libération, qui était un poète également, qui s'appelle, je ne sais pas s'il vit encore, Jean Rousselot, qui était un policier poète, un homme formidable. Et la première fois que je l'ai vu, je lui ai reproché d'avoir quitté la police, non pas parce que je le trouvais mauvais poète, mais parce que je trouvais que la police devrait avoir
plus de poètes.
Davantage de poètes dans ses rangs. Bon, et donc ma mère, qui était assez inconsciente, elle est restée toute la guerre, pendant toute la guerre à Paris, allant même à l'opéra, parterre d'officiers allemands, enfin, qui se retournaient, mais regarde, c'est une juive qui est là, mais non, tu es fou, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de juif ici, c'est une circassienne. Et c'était Monique qui comprenait parfaitement l'allemand, qui traduisait ça. Elle était sans peur ni reproche d'une vaillance inouïe, mais après l'histoire de la Gestapo d'Orléans, oui, parce que Jean Rousseau leur a dit « Foutez le camp, retournez à Paris, mais n'allez pas dans l'appartement que vous habitiez, parce que les papiers étaient faux, mais l'appartement, l'adresse de l'appartement était vraie. Ils vont comprendre très vite, les Allemands. » Et soudain, elle s'est mise à comprendre que la mort était là, complètement. Et elle a consulté une cartomancienne, une rude salope, parce que c'était pas difficile d'imaginer l'état dans lequel se trouvait cette femme qui n'avait pas revu ses trois enfants. Enfin, et elle lui a dit qu'elle ne les reverrait jamais. Alors elle était, ça lui a été une douleur immense, et elle a supplié Moni de Bouly de venir avec des faux papiers. Quand ils ont été arrêtés à Orléans, il s'appelait Pascal, Claude Pascal. Il venait de changer les faux papiers au nom de Claude Pascal par d'autres au nom de Amédée Sylvestre. Et pour se persuader lui-même, pour apprendre ce nouveau nom par cœur, il arrivait « Je suis Monsieur Sylvestre ». Moi, je ne comprenais pas du tout. Mon père est arrivé, parce que mon père était là. Et enfin, on a compris qu'il était délégué par ma mère, et ça a été l'irruption dans cette petite ville de Brioude, endormie et alarmée en même temps, parce que c'était, il y avait des rafles de juifs, enfin, etc. Et ça a été l'irruption du génie absolu de la langue française, comme seuls sont capables de la parler ou de l'écrire des étrangers doués, la drôlerie, la cocasserie, l'invention, etc. Pour moi, pour mon père aussi, c'était d'une nouveauté absolument formidable, et il est resté 8 jours. Il écrivait tous les soirs à ma mère, et il terminait toutes ses lettres « À toi, Paulette, à toi seule, éternellement ». Il l'a aimé tout le temps, il ne l'a jamais trompé une fois, enfin. Et alors il aurait pu, parce que c'est un homme d'une séduction formidable. Et il me disait « Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour ta mère ?» Et moi, ma mère, je l'avais pratiquement oublié, parce que c'était une héroïne, ma mère, parce que il faut imaginer ce que c'est. 1934, c'est pas aujourd'hui. 1934, une femme qui a le culot ou le courage d'abandonner son mari et ses trois enfants en bas âge, moi j'avais même pas 9 ans, en laissant un mot sur la table, « Je vous aime, mes enfants, je reviendrai », etc. Parce qu'elle ne supportait pas la condition du mariage, elle ne supportait pas cet étouffement. Elle est partie sans un sou, travaillait en usine, sertissait des boîtes de conserve pendant un an. Et bon, après, on l'a revue à peu près une fois par an, parce qu'on ne vivait plus à Paris. Et puis alors Moni me disait « Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour ta mère ?» Et je ne pouvais pas ajouter Je n'éprouvais rien pour elle. Mais c'était tellement étrange, cette femme qui Je la voyais sous un autre jour à travers l'amour que cet homme extraordinaire lui portait. Parce que ce n'était pas une femme très douce. Quand elle me pinçait au sang pour me faire avaler de l'huile de foie de morue ou une autre chose très tendance à l'époque, mais immonde, qu'on appelait la panade, une sorte de soupe au pain, je vomissais tout systématiquement. Elle me pinçait vraiment. Mais elle était drôle, elle était brillantissime, elle était d'une famille, et elle bégayait parce que on l'avait étouffée pour lui. Elle était née à Kishinev, le berceau de la famille Badinter, entre parenthèses, et elle est arrivée en France à l'âge de 3 ans. Et son père, mon grand-père, que je n'ai pas connu, qui était un géant de 1m94, qui s'occupait de chevaux à Kishinev, elle est née à Odessa. Ils ont quitté clandestinement Odessa par bateau. Et pour que cet enfant ne crie pas, ils l'ont un peu étouffé sous des oreillers. Ils l'ont trop étouffé, puisqu'elle a été bègue toute sa vie, et donc moi j'avais un peu honte d'elle, j'étais un enfant conformiste.
Mais justement, il y a des pages dans votre livre absolument bouleversantes sur la question de la honte, et il arrive à tous les enfants d'avoir honte de leurs parents, sauf que vous, c'est un moment où vous allez la voir à Paris, en pleine occupation, elle tient absolument à vous acheter des chaussures chez André, elle fait tout un scandale, comme peuvent le faire parfois des mères dans un magasin quand il s'agit de choisir des chaussures pour un enfant. Et là, vous racontez comment vous, la honte et la peur, surtout d'être attrapé à cause d'elle, vous fait fuir. Et tout d'un coup, vous rendez compte, et c'est ce que vous racontez dedans, et ce sera certainement le début d'une réflexion sur qui arrivera jusqu'à pourquoi Israël et Shoah, sur qu'est-ce qu'être juif. Et vous dites, à ce moment-là, j'étais le pire des juifs, j'étais le juif antisémite.
Ah oui, c'est la variante la plus infâme que je déteste. Je me suis conduit, j'ai abandonné ma mère, littéralement. C'était abandon contre abandon, ouais, d'une certaine façon.
C'est quand même de cela qu'il s'agit aussi, parce que si elle a été rude avec vous et que si vous avez eu du mal avec elle, Claude Lanzmann, dans ce livre, L'élève de Patagonie, il y a une autre grande figure, évidemment, de femme, on en parlera tout à l'heure avec Simone de Beauvoir, mais quand même, c'est quand même un livre aussi qui est une très grande lettre d'amour à votre mère, quand même, ce livre-là.
Oui, et je suis content de l'avoir fait, parce que j'avais écrit un texte que j'ai lu sur sa tombe quand elle est morte en 1995, l'écrit en une nuit, que j'ai pas vraiment repris là, mais c'était tellement drôle quand on l'a retrouvée vraiment après la guerre. Enfin, elle nous avait quittés enfants, et alors elle voulait voir comment on était foutus, comment on était fait. Et alors Moni de Bouly, ils avaient quand même un petit appartement. Moni de Bouly, mon frère Jacques et moi, on attendait à la porte de la salle de bain, entièrement nue, à poil, comme ça. Et puis elle était à l'intérieur et l'officier, elle nous bouchonnait, elle nous pansait, elle nous lavait, en fait, etc.
On rappelle que vous aviez plus de 20 ans, donc, à l'époque.
Oui, absolument, et sortant de la guerre.
Il faut le préciser aux auditeurs.
De la guerre.
Et de la résistance.
Et alors, de temps en temps, elle prenait un air dégoûté parce qu'elle était impitoyable. Un air dégoûté, parce que l'un avait une épaule trop basse, l'autre un testicule trop haut, on n'en sait rien. Et, ah oui, tu tiens ça de ton père, tu tiens ça du père, parce qu'elle haïssait mon père. Bon, enfin, mais c'était incroyablement drôle, et c'était surtout d'une grande intelligence, les rapports, et d'une grande liberté. Enfin, c'était, faut voir, c'était juste... La guerre venait de se terminer, il fallait tout recommencer, tout reconstruire.
Mais c'est vrai qu'il faut quand même dire ici, alors que s'achève déjà la première partie de cette émission, ou presque, Claude Lanzmann, que par Moni de Bouly peut-être aussi, ce goût de l'écriture, on en reparlera tout à l'heure, enfin ressurgit. Vous dites, je suis content de l'avoir fait, mais c'est vrai qu'on a attendu quelques années avant que ce livre ne paraisse, Claude Lanzmann. On vous l'a longtemps demandé. L'important maintenant, il existe. Cette lettre existe. Cette lettre, j'allais dire, oui, parce que je disais lettre à votre mère, ce livre existe et c'est Un très beau livre qui n'a rien... Les mémoires sont parfois fastidieux à lire, mais ici, c'est de la littérature, c'est une langue absolument magnifique. Il y a quand même un style, un souffle, une ampleur, et je pense que Antoine Guillot, qui comme moi l'a dévoré, et comme beaucoup d'autres vont le faire, on prend un plaisir, il y a un plaisir de lecteur absolu.
Un plaisir qui tient aussi à l'incarnation de personnages, c'est-à-dire que vous faites revivre beaucoup de disparus qu'on a entendus, qu'on va entendre, et de gens tout aussi vivants maintenant. Et la question, effectivement, de la vie et de la capacité à faire revivre est au centre de, enfin, un des centres de ce livre, parce qu'il en comporte plusieurs.
Oui. Hein. C'est un livre au présent, Claude Lanzmann. Est-ce qu'on peut dire cela ?
Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, parce que c'est un livre de... C'est un livre d'éloignement. J'ai réussi à le faire et à l'écrire comme ça en prenant une espèce de distance par rapport à mon passé. Et cette distance par rapport au passé fait paradoxalement que c'est un livre au présent. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de narcissisme, je crois, dans ce livre du tout. Et... Il y a une sorte de... Le passé revit à pleine force, enfin.